alone. Boop-boop-bidoo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur Radio Occitanie. Alors aujourd'hui je reçois Jean-Jacques Fraissinet, bonjour.
Bonjour.
Pour son dernier livre Maria et Dadaire, le coup de fusil, paru aux éditions La Bruyère, dont il va nous parler dans quelques instants. Mais en attendant, je vais vous donner quelques petites infos comme à l'accoutumée concernant cette fois-ci essentiellement le marathon des mots puisque comme vous le savez, il commence aujourd'hui, jeudi 15 juin, et se terminera dimanche 18 juin, avant le match du soir. Et ça a été fait exprès. Et donc voilà, je vous donne quelques petites... Donc ça commence cet après-midi à la médiathèque à 15h avec quelqu'un que vous connaissez, puisque je l'ai reçu la semaine dernière. C'est Alain Monnier pour son dernier livre, Givré. Et puis après, si vous restez encore à la médiathèque, vous pourrez assister à la lecture de l'attentat, enfin d'un passage de l'attentat de Yasmina Kadra, dont je vous avais parlé aussi à l'époque. Et puis ensuite, à la librairie de la Renaissance, 1 allée Marc Saint-Saëns à Toulouse, dans le cadre donc du marathon, une rencontre le vendredi 16 juin à 14h avec Umberto Eco. Hein, est-ce la peine de le présenter après de nombreux romans qui ont rencontré de beaucoup de succès, comme Le Nom de la Rose, Le Pendule de Foucault, Comment voyager avec un saumon. Et puis le même jour, également vendredi 16 juin à 20h30 avec une rencontre toujours pareil à la librairie de la Renaissance avec Eduardo Mendoza, un auteur espagnol qui est le plus traduit dans le monde, pour une lecture d'un passage du livre La ville des prodiges. Donc ça c'était à la librairie de la Renaissance. Et puis samedi 17 juin à 16h30, toujours à la librairie, donc le lendemain, une rencontre avec Pascal Dessin, un écrivain qui habite à Toulouse, dans notre ville rose, et qui est l'auteur de nombreux livres et romans et recueils de nouvelles, dont la plupart sont parus chez Rivage, et dont le dernier s'intitule « Loin des hommes ». Et puis ensuite au Salon Privat, hein, Salon Privat 14 rue des Arts, reçoit aussi donc le Marathon des mots avec samedi 17 juin à 18h30, une rencontre avec Pierre Assouline, Jean-Paul Dubois, Marie Nimier et Gilles Lustiger. Alors Jean-Paul Dubois, on le connaît pour Une vie française, Kennedy et moi, et son dernier livre qui s'intitule Vous plaisantez, Monsieur Tanner. Et puis Marie Nimier, que l'on connaît aussi, qui est de la région toulousaine. Donc ça, voilà, donc le marathon des mots, je vous invite à y aller, hein, je ne peux pas tout détailler, hein, c'est sur 4 jours, il y en a dans toute la ville de Toulouse, il y en a partout, donc je vous invite à y aller dès aujourd'hui jusqu'à dimanche soir, de parcourir la ville à la recherche d'une lecture qui vous intéresse. Les programmes et les places sont à retirer au point de vente Virgin, Fnac, etc. Ensuite, café de philosophie pour le jeudi 22 juin à partir de 19h30. Donc comme c'est le quatrième jeudi du mois, le sujet n'est pas annoncé, hein, il est choisi le jour même parmi les propositions des candidats, enfin des participants. Donc les sujets, bon, s'appuient évidemment à titre d'exemple sur des faits d'actualité. Donc je vous rappelle que c'est au Café de l'Esquille, 63 rue du Thor, et le numéro de téléphone 05 61 23 42 46, 05 61 23 42 46, donc le jeudi 22 juin, à partir de 19h30, si vous avez envie de disserter philosophie. Voilà, les petites infos.
Page à page, Claire Ambil.
Et maintenant, je vais me tourner vers mon invité. Donc Jean-Jacques Fraissinet, je vous avais reçu l'année passée pour votre livre précédent qui s'intitulait...
Une histoire de présidence au pays de la malvoyance.
Voilà, qui était aussi paru aux éditions La Bruyère.
La Bruyère également.
Et qui retraçait un peu votre parcours jusqu'à la présidence donc, de l'association Rétina France. Vous êtes l'ancien président donc, de Rétina France.
Voilà, le président d'honneur aujourd'hui, qui retraçait ce livre, La vie d'un handicapé face à l'insertion sociale. Et qui doute toujours du droit, qu'il peut prendre de faire comme s'il n'était pas handicapé, et qui est en fait, je crois, un hommage à la volonté d'oublier son handicap et de vivre comme tout le monde.
Voilà, puis voilà, une volonté assez forte, voilà, de faire comme tout le monde, de pallier à tous les obstacles. Et oui, donc vous parliez de tout ça dans le livre précédent. Et là, vous revenez avec un nouveau livre qui s'intitule donc Maria et Dadaire, le coup de fusil. Donc toujours aux éditions La Bruyère. Et alors là, c'est complètement différent par rapport au livre précédent, puisque là vous ne parlez pratiquement pas donc de votre malvoyance, même pas du tout. Bon, ça apparaît en filigrane sur quelques petites situations.
Au moment du coup de fusil.
Oui, voilà, parce que bon, vous vous dites, voilà, comme je n'y voyais pas trop, voilà, c'est des petites choses comme ça, des petites allusions, mais très furtives, donc, voilà, mais c'est essentiellement, en fait, un hommage familial, un livre de souvenirs sur, des personnes qui ont existé. Voilà, il faut quand même dire que c'est un livre qui retrace la vie de deux personnes, bon, puis les personnes autour, mais enfin, de deux personnes, Maria et Dadaire, qui ont existé.
Qui ont existé et que, qui rappelle un petit peu Cattinou et Jacouti. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai rencontré Charles Mouly pour vérifier si c'était bien une ressemblance que l'on pouvait citer. Et là-dessus, il m'a dit oui, effectivement, ça rappelle bien cette époque-là.
Vous pouvez dire ce que c'est Cattinou et Jacouti, peut-être où il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas, parce que l'époque, c'est pas la même époque que maintenant.
Ce sont deux personnages qui ont été créés à la Libération, à ce moment-là, par des jeunes journalistes, donc Charles Mouly, et qui retraçait la vie quotidienne des gens à l'époque. Tous les matins, il y avait une séance. Jacouti, c'était l'homme. Cattinou, c'était la femme. Ils avaient des caractères bien trempés. Ils parlaient patois. Ils étaient de Mangeseb, à côté de Saint-Lys, dans la région.
Donc dans la campagne.
Et
quoi.
Ils ont fasciné toute la population régionale à l'époque, parce que chacun s'y retrouvait ou retrouvait son voisin. Cattinou et Jacouti se disputaient, puis ils avaient des problèmes quotidiens comme chacun d'entre nous. Et c'était très 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 populaire.
D'accord, et donc c'est vrai que les personnages, Maria et Dadaire, ils ressemblent, puisque bon, eux aussi ont un caractère bien
trempé tous les deux.
Et donc en fait, voilà, donc le livre, en fait, donc c'est la préface est faite par l'ancien maire de Plaisance-du-Touche, parce qu'on fait connaissance, en fait, aussi dans ce livre avec le village de Plaisance-du-Touche.
C'est exact, oui. Voilà. C'est tout à fait, c'est une fresque villageoise. Hein.
Tout à fait, tout
et
à
Jean-Pierre
fait.
Jean-Pierre était, il a mon âge, donc.
Un ami d'enfance.
Voilà, t'es un ami d'enfance, puisque sa mère était institutrice, la mienne aussi. Et il vivait à l'école où Maria a été cantinière.
Voilà, tout à fait. Elle faisait le repas des enfants de l'école de Plaisance, tout à fait. Donc la préface, voilà, est faite par l'ancien maire de Plaisance-du-Touche et votre ami d'enfance. Puis après, vous faites un petit prologue où vous expliquez un petit peu pourquoi ce livre. Vous dites déjà que c'est authentique, hein, que ce sont des souvenirs qui vous ont été beaucoup racontés finalement, parce que eux-mêmes, les personnages Maria et Dadaire, ne vous ont pas forcément raconté au moment leur vie, quoi. Hein. Ça s'est fait après.
Et moi, quand j'étais donc adolescent, j'étais fasciné par ces personnages, Maria et Dadaire, donc mon oncle, ma tante, qui étaient très volubiles et dont j'avais du mal à suivre le cours des pensées, parce qu'ils se répétaient, se contredisaient. J'étais fasciné par ces personnages-là.
Et donc voilà, après on vous a raconté aussi, bon, pour vous aider à faire ce livre, pour rassembler tous les souvenirs, pour que ça soit le plus authentique possible. Et vous avez après demandé à votre maman, à vos sœurs, enfin ce qu'elles se rappelaient de.
Mais en fait, on n'est quand même pas loin de là.
Oui, non,
un
non,
livre
c'est sûr.
Historique.
Le siècle dernier à la campagne, en fait. Hein, voilà. C'est le siècle dernier à la campagne, et c'est quelque part quand même toute une époque. qui était bien différente de celle qu'on vit maintenant, et c'est une époque vraiment révolue. Hein.
C'est révolue. Alors, ce que j'ai vécu également, C'est la course effrénée de ces deux personnages pour s'intégrer dans une société qui évoluait extrêmement rapidement, où les valeurs basculaient, et eux, ils étaient tellement ancrés dans les valeurs de la terre, de tout ce qu'on leur avait appris, de l'école laïque, et j'en passe, et des meilleurs. Et en fait, ils se voyaient contredits par les faits.
Ils
en étaient malheureux.
Ça avançait vite. Enfin, l'industrialisation, enfin l'évolution naturelle de voilà. tout ça, le progrès. Après la guerre, ça a été vite.
Ça a été extrêmement vite. On parlait à l'époque de Watine. Bon, pour moi, c'était des noms prestigieux, surtout que quand ils parlaient, ils ne vous donnaient pas d'explication. Hein.
Oui, c'était...
Quand ils vous parlaient de l'aérospatiale, qu'ils vous demandaient qu'est-ce que c'est, ils vous regardaient, mais quoi, tu ne sais pas. De Watine,
oui.
Tu ne sais pas. Bon,
oui, c'était un langage assez... ils étaient...
Et puis on voyait des jeunes donc, intégrer ces sociétés en pleine... ces entreprises en pleine expansion, y faire carrière. Il y en a aujourd'hui qui sont retraités et qui ont vécu une vie très remplie, enrichissante de promotion sociale dans ce qui est devenu aujourd'hui l'aérospatiale. Et à l'époque, c'était uniquement le balbutiement.
Oui, bien sûr. Donc si vous voulez, on va prendre un peu... Donc il y a 9 chapitres, donc la préface, le prologue, bon, ça se finit aussi par un épilogue. Hein. Vous faites les choses bien, bien dans l'ordre. Et puis donc, c'est très bien. Donc, et 9 chapitres, donc je vais vous les lire au fur et à mesure. Donc le premier, c'est la ferme, bien sûr. C'est là où vous racontez, c'est là où apparaissent pour la première fois aux lecteurs et aux lectrices le Maria et Dader. Hein. Dader sur sa moto, flamboyante, lui aussi assez flamboyant. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, tout du moins. Et c'est bien sûr, vous avez un style très... Ce que j'aime bien, c'est que c'est très fluide, enfin, c'est très simple, mais c'est très imagé. Enfin, je veux dire, c'est décrit simplement, mais on s'y croirait vraiment. En refermant le livre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir connu Maria et Dader, quoi. Parce qu'ils étaient vraiment bien... On les sentait, hein, on les sent. Ils sont vraiment présents, bien décrits, et puis on les imagine, on les visualise.
C'est un gentil compliment.
Ah ben, sincère, monsieur Fraissinet. Donc la ferme, donc c'est là où vous allez en fait voir votre
grand-mère maternelle.
Voilà, et donc bien sûr c'est la réunion un peu du dimanche familial autour de la table où le repas se finit à 5h de l'après-midi. Hein, et puis donc ça c'est le premier chapitre où on connaît les personnages de Maria et Dader. Alors après il y a la gare, j'en lirai un passage tout à l'heure, donc là où on vous expliquait leur rencontre, comment ils se sont rencontrés. Et puis pendant la guerre, hein, comment Dader a fait, Maria a fait de la résistance en faisant, en aidant certains, oui tous les deux, mais bon, ben elle avec son poste donc à la gare, qu'elle a aidé un peu la résistance. Hein. Et puis après, on parle du petit train du Sud-Ouest, hein, donc dans ce même chapitre, hein, puisqu'ils ont été chefs de gare, il a été chef de gare.
Quelque chose qui animait énormément la région. Si vous voulez, ce petit Sud-Ouest, c'était le mode de déplacement, le transport régional. Tout le monde le prenait. On allait même à la gare, où ils allaient à la gare. C'était pas encore né, mais si vous voulez, pratiquement, pour assister à l'arrivée au départ des trains, pour savoir qui c'est qui montait, qui c'est qui allait, avec qui, c'était l'attraction du village. C'était tout. Et pour Maria et Dader, quand le Sud-Ouest a fermé dans les années 50, pour eux, c'est tout un pan de vie qui s'est écroulé. Ils s'en sont jamais remis.
Remis.
Non.
Oui, après, ça a été remplacé donc par la TED.
Le transport économique départemental, la TED, et qui pour eux, c'était l'ennemi. Hein, c'était la route qui était en train.
D'ailleurs, Maria, je crois, ne l'a jamais, jamais utilisée.
La TED, si c'est qu'elle n'a jamais utilisé.
C'est après, ce qu'il y a eu après.
C'était les bulles de ville de la Trimvat quand le 65 est arrivé à Plaisance.
Voilà, ouais, c'est ça.
Alors là, je me souviens très bien, désabusée, elle m'a dit, mais ça ne marchera jamais. Alors déjà que la TED était pour elle l'ennemi, quand elle a vu arriver le 65.
Et oui, donc on voit toute l'évolution, quoi. C'est marrant parce que bon, ben, quand on n'a pas connu cette époque, et puis que bon, moi, Plaisance du Touche, je connais un peu maintenant de nom, mais enfin, on voit un village avec, enfin, ça n'a rien à voir avec sûrement ce qui existe maintenant. Le village s'est considérablement grossi, quoi, a augmenté de volume, voilà. Mais on voit toute l'évolution du progrès, bah, de ce siècle, de ce dernier siècle, quoi. Et c'est vraiment très intéressant. Et après, donc, bah, justement, on arrive au chapitre 3, le village, où vous parlez donc là de Plaisance du Touche, avec les baloches.
Les baloches, la fête annuelle dans ce village-là, c'était le point d'orgue de l'activité, et on s'y préparait, on en parlait, et puis les jeunes et les vieux...
se mélangeait, c'était le lieu de réunion et de rencontre de toutes les générations.
Dans le respect et une certaine fraternité sincère.
Oui. C'était plus sain, c'était sain.
Hein, c'était sain, ils dansaient pour le plaisir de la danse. Ils se sont rencontrés pour jouer aux cartes, si vous voulez, ou d'aller à la chasse. Mais
ah oui, parce que Dader était un grand chasseur.
C'était sans compétition.
Oui, si voilà, il n'y avait pas cette idée de...
Non, il n'y avait pas cette idée de compétition. Quand ils partageaient une activité, chacun avait droit à la même considération.
Oui, il n'y avait pas de un plus que l'autre. Et puis les activités des uns et des autres, ça n'avait pas tellement d'importance quand ils se retrouvaient pour jouer aux cartes, pour aller à la chasse et tout ça. Voilà,
ils allaient à la chasse, qu'il y avait le comte du coin, ben il était comme eux.
Ben voilà, il était chasseur. Voilà, quand il se retrouvait, il était chasseur avant d'être comte.
Voilà. Et quand il tapait la belote ou la manille, comme il dit, c'était... À égalité, même celui qui avait réussi à Paris et qui revenait avec des titres ronflants et des portefeuilles gonflés, quand il se retrouvait faire le quatrième à la partie de belote, il était comme les autres, un point second.
Alors après, on a Al Repaus. Alors, après la fermeture de la gare, ils ont acheté une petite maison donc dans le village de Plaisance et ils l'ont baptisée donc Al Repaus. Ça veut dire donc en patois.
Au repos. Voilà. Elle venait de prendre la retraite, la Maria.
Et ben voilà, donc ça a été vite choisi et bien choisi. Donc c'était leur maison où ils sont restés jusqu'à la fin. Et puis ensuite, on a on voit beaucoup de gens de la famille, des voisins qui viennent les voir. Enfin, Al Repaus, c'est un peu le repère, je dirais, de familial et convivial et amical du village, un peu.
Hein, du village, presque, je veux vous dire, parce que quand ils ont pris la retraite, tous ceux qui les avaient connus, soit à la gare, soit à la cantine, venaient les voir. Et en plus de ça, on venait prendre le permis de chasse.
Ah ben oui, parce que Dader, voilà, faisait partie de la fédération, voilà, tout à fait.
Donc, moi, j'ai toujours vu défiler du monde dans cette maison. C'était un nid ouvert à tous les coucous.
Et puis, ils avaient beaucoup de chiens aussi, dans cette maison. Les chiens ont occupé une place importante. Les chiens de Dader pour la chasse,
Des chiens courants, comme les grands. C'était un signe de réussite d'avoir des chiens comme si on avait une meute.
Alors après le chapitre 5, on arrive aux rentiers, donc c'est quand ils profitent, ils sont installés, ils profitent un peu de la vie sans... ils profitent de ce qu'ils ont travaillé beaucoup avant, de tout ce qui s'est passé avant, Donc c'est un peu une période de plénitude.
C'était la concrétisation de leur vie. En fait, ils vivaient comme des petits bourgeois.
Voilà. Mais enfin, en ayant travaillé énormément avant et très durement, quoi. Donc c'est peut-être pas tout à fait pareil.
Oui, mais pas des petits bourgeois... style de la littérature du 18e. Mais eux, ils en avaient tellement rêvé quand ils étaient gosses et jeunes d'avoir un jour l'aisance des bourgeois qu'ils se sont coulés dans le modèle et puis dans le moule. Et en fait, Ils se considéraient un petit peu comme des rentiers, oui.
Oui, ben... Oui, oui, ça se... Voilà, donc ça, c'est le chapitre 5.
Alors qu'ils étaient quand même de conditions très modestes.
Oui, 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 ils ont une... Oui, ben, je vais lire le passage à tout à l'heure, comment ils se sont rencontrés, et puis donc d'où ils viennent. Tous les deux, ils sont, voilà, issus de milieux modestes, mais enfin, ils ont travaillé dur, quoi, pour acquérir ce qu'ils avaient à cette époque. Hein. Ça, c'est ça qui en ressort, hein. C'est cette force de caractère, ce sens de l'honneur, le respect des valeurs.
Ils n'ont jamais renié les valeurs qu'on leur a enseignées. C'était sacré.
Voilà, c'était leur ligne de conduite et ils n'ont jamais dérogé à cette ligne de conduite.
Jamais. Ils n'ont jamais trahi qui que ce soit, la parole donnée était sacrée.
Et donc après, bon, les derniers chapitres, je laisse au lecteur le soin de les découvrir. Hein. Nous avons le déclin, le dernier geste de Dadaer, le dernier souffle de Maria, et puis le lourd silence, et puis après votre épilogue. La fin, c'est vrai que c'est comme toutes les fins, hein. C'est pas forcément gay, mais c'est la réalité. Hein.
C'est
une histoire authentique. Hein. Une tranche de vie, quoi, du siècle dernier à la campagne.
À la ville.
Oui aussi, oui, on voit, il y a des allusions à Toulouse, hein, bien sûr, Place Esquirol, enfin il y a des lieux qui sont cités, bien sûr, hein, bien entendu, puisque ça se passe à Plaisance-du-Touche, c'est tout à côté chez nous.
J'espère que ce livre leur rendra la dignité qu'ils méritaient.
Oui, en tout cas, moi je trouve que c'était des personnes très attachantes. Hein, moi, c'est ce que j'en ai retiré. C'était certainement des gens très attachants. Et puis, vous avez écrit aussi avec une grande sensibilité, quoi. Il y a beaucoup d'émotions, quand même, dans ce livre. Bon, qui n'est pas toujours forcément très expansive, mais enfin, on la sent quand même, quoi, cette émotion. On sait que vous les avez appréciées, que vous les avez aimées. Donc, je crois que ce livre est un hommage à ces deux personnes. Donc, je vous propose de lire un passage du chapitre 2 qui s'intitule « La gare ». Étant donné la différence d'âge qui nous séparait, 40 ans, il est évident qu'une large partie de la vie de Maria et d'Adair n'a pu que m'être racontée. Quand c'était eux qui en parlaient, la description n'avait rien d'un récit historique. Celui qui écoutait était censé connaître les personnages, les lieux et les dates. Cela relevait parfois du jeu des devinettes, mais si l'on demandait des précisions, les narrateurs s'énervaient vite, agacés de n'être pas compris. Il valait mieux ne pas les interrompre, écouter et essayer de reconstituer tout seul le puzzle de leur vie. Heureusement pour nous, nous avions droit à un nombre quasiment illimité de narrations. Ils n'étaient pas nés tous les deux dans la même région. Maria avait vu le jour en 1906 dans le canton de Saint-Lys à Cambernan. Dadaer vint sur terre en 1909 dans le canton du Fousseret à Marignac. À vol d'oiseau, la distance qui sépare les deux lieux ne doit pas dépasser 50 km. Mais les moyens de communication modernes n'existaient pas encore. Heureusement, il y avait la bicyclette, la petite reine. Elle permettait aux jeunes de se rendre aux fêtes de village alentour. On attendait la baloche d'une année à l'autre. Celle de Rieum était une des plus belles. Et nos deux jeunes héros y firent connaissance, se plurent et se marièrent, mais n'eurent jamais d'enfants. Dadaer était fils d'ouvrier agricole et avait été rompu très vite aux travaux de force. Il faut dire que le gaillard était solide et fut même remarqué par le club de rugby de Rieum. Dadaer a toujours parlé de ce club comme d'un club de légende. Il y côtoya des gens d'un milieu social plus élevé que le sien. Il insinuait même volontiers qu'il profita des faveurs de ces dames de la haute. Il aimait dire qu'il y avait deux sortes d'amants sur terre, l'amant de cœur et l'amant casse-cœur. « Moi, je n'avais pas d'argent », faisait-il remarquer d'un petit sourire narquois, « mais j'étais toujours impeccablement habillée. J'ai toujours bien vécu, j'ai même été plusieurs fois à l'opéra à Toulouse, au Capitole. » Les parents de Maria étaient, eux, propriétaires terriens. Elle quitta l'école à 11 ans, comme Dadaer. Son père était parti à la guerre de 1914-18 et elle se retrouva pratiquement chef de famille avec sa mère. Elle alla donc travailler au château, chez les Bastiers. Elle aimait bien Monsieur Jean, le propriétaire. Il surveillait le personnel avec indulgence, mais ne se baissait jamais et ne se salissait jamais les mains. Elle avait aussi un faible pour le fils, Monsieur Pierre, qui épousa la fille du maître valet. La révolution sociale était déjà en route, en marche, pardon. C'était la belle époque du réseau ferroviaire régional que l'on appelait le Sud-Ouest. Le jeune couple, Maria et Dadère, réussit à s'y faire embaucher. C'est elle qui entreprit les démarches pour s'inscrire au test d'admission. On fit appel à la jeune Yvonne, Vovo, pour réviser les connaissances indispensables. Ma mère avait pu être envoyée au collège, à Toulouse, pour suivre des études. Elle était devenue institutrice. Les deux jeunes recrues furent d'abord affectées à la gare de Launac. Lui était au service de l'entretien des voies. Il parcourait des kilomètres et des kilomètres, remblayait le ballast et resserrait les boulons. Elle était, quant à elle, auxiliaire de chef de gare, s'occupait de l'enregistrement du fret, de la distribution des billets au guichet et de l'aiguillage. La voie était unique et c'est dans les gares que le croisement des trains avait lieu. Ils furent ensuite affectés au rond-point de l'Ardenne. C'était un nœud ferroviaire. La voie se dédoublait ici. L'une filait vers le Gers jusqu'à Boulogne-sur-Gesse. L'autre filait vers l'Ariège jusqu'au Mas d'Asile. Maria a toujours parlé avec passion du temps passé à ce rond-point. Elle racontait ses courses d'un aiguillage à l'autre pour que les convois ne se télescopent pas. Et puis ça continue comme ça, Monsieur Fraissinet, sur la gare. Voilà. Après, on parle de la guerre, hein, avec donc la gare. Les gares étaient importantes pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Il s'y passait beaucoup de choses. Et donc donc ils ont participé, comme vous le disiez tout à l'heure, à la résistance tous les deux. Et puis après ça continue donc dans ce chapitre on parle un peu plus donc du réseau ferroviaire de l'époque.
Pour la petite histoire, je suis moi-même né à la gare.
Ah bon ? Vous êtes né à la gare ?
Oui, parce que ma mère, qui était institutrice à cette époque-là à la Bastide Saint-Pierre dans le Tarn-et-Garonne, est venu donc accoucher chez sa sœur. On allait accoucher dans les
en
familles.
Famille, voilà. À l'époque. Oui.
Donc, je suis né sur la table de la cuisine de la gare, je ne sais pas où.
Ah,
sur quelle table ? Sur une table
parce
de la
qu'elle
gare.
Parce qu'elle n'a pas eu le temps d'arriver.
Non, mais c'est-à-dire que les accouchements se faisaient sur place. Hein.
Il fallait là où ça. Voilà. Eh oui, c'est toute une époque. Ce livre, c'est vrai, quand on le referme, on a une certaine nostalgie, quoi. C'est toute une époque qu'on sent qui a disparu. Toutes ces personnes disparaissent peu à peu ou ont disparu. Hein. Maria et Dadère, mais votre mère aussi est décédée, je crois. Toutes ces personnes, elles avaient quelque chose à transmettre. Et j'espère que ça sera encore transmis dans une autre génération parce que je trouve que c'est important. On est tous issus.
Oui, de témoigner.
Oui,
de témoigner des gens comme moi qui ont vécu ça étant gosse. On t'a envie de témoigner pour que ça ne disparaisse pas.
Oui, tout à fait, parce qu'on est tous issus quand même. On vient tous de là, hein, de cette période. Enfin,
Et si personne ne raconte.
On
parle beaucoup de devoirs de mémoire, sans le savoir.
Donc parlez avec vos grands-parents. Je crois que c'est le message qu'on peut faire passer. Écoutez-les, quoi, quand vous êtes jeune. N'hésitez pas à écouter les personnes dites âgées parce qu'ils ont beaucoup de choses à vous transmettre, beaucoup de choses à vous apprendre. Et puis c'est votre histoire à vous aussi. Donc alors ce livre, Maria et Dadère, le coup de fusil aux éditions La Bruyère, il est disponible dans toutes les librairies. S'il ne l'est pas, vous pouvez le commander en le demandant au libraire. Et sinon, vous avez une adresse.
On peut
taper si vous avez Internet, voilà,
hein,
on tape Jean-Jacques Fraissinet.
On tape Jean-Jacques Fraissinet, vous allez voir apparaître le Centre régional des lettres dont je suis membre, adhérent, et puis vous pouvez commander sur Amazon, sur...
Donc il y a les indications pour le commander directement par Internet, si les personnes préfèrent Internet. Sinon, dans les librairies, vous le trouverez aussi. Vraiment, je vous le recommande, c'est un très très beau livre. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci Monsieur Fraissinet d'être venu présenter ce livre. Et puis je crois que vous en avez deux autres en projet, donc vous reviendrez me voir.
Écoutez, je vous remercie de m'inviter. Effectivement, je reviendrai si vous m'accueillez pour parler d'Oscar.
Avec plaisir. Donc pour les deux suivants, donc voilà, fin d'année et puis l'année suivante, en 2007.
Très bien.
Voilà, merci Monsieur Fraissinet. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Adiciats à tous.